One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Divergentes et divergents, peuple de gauche et gens de droite, très chers auditeurs, bref, proboscopiennes et proboscopiens, le loup, le renard et la belette, vous saluent. Vous avez la chance d'écouter Proboscopie, l'émission diffamante de la bande FM. Aujourd'hui, nous proboscopons la droite montpelliéraine, l'éternelle opposante depuis que François Delmas a été renvoyé à sa chère étude. Pour eux, il va nous falloir de la sympathie au sens grec du mot « souffrir avec » et que la divergence soit. Monsieur l'habile maladroit, en trois mots, messieurs les cadors de l'opposition, dites-moi, et là Arnaud Julien qui est déjà dans nos studios, c'est quoi être de droite ?
Ah, de droite, c'est croire en des valeurs, être la valeur de la nation, du travail, du mérite,
c'est le côté catho, t'y crois.
Ah non, on croit à des valeurs et d'ailleurs on le voit maintenant par le gouvernement qui ne sont pas du tout portées. Quand on voit par exemple ne serait-ce que la valeur du mérite où finalement on met les copains et les coquins à la tête des responsabilités du pouvoir.
Ouais, c'est bien qu'on ne sait plus d'ailleurs différencier la droite et la gauche.
Bon. Un véritable spoil system à l'américaine.
Sauf que la droite n'a jamais prétendu dire « moi président, je ne mettrai pas mes amis » alors que M. Hollande avait fait campagne sur ce thème-là, le thème de l'impartialité. Et au lieu de ça, on voit aujourd'hui qu'il casse ses petits copains comme Jacques Lang, l'ancien directeur de cabinet de Jospin,
l'Institut du monde arabe.
On redevient à l'état PS et c'est dommageable pour
bon.
La République.
Mais vu l'état du PS, sont-ils vraiment ses amis ?
Bon, alors avant tout, nous voulons vous proposer de diverger durant 90 minutes autour de trois thèmes suivants. Le premier, y a-t-il une vie après Sarkozy ? Le deuxième, tout est-il à jeter dans ce que fait le gouvernement ? Et puis enfin, une rubrique spéciale intitulée « Allô, la droite montpelliéraine, quel numéro de téléphone ?» qui sont nos invités ? Arnaud Julien, le patron de la Fédération héraultaise de l'UMP, futur maire de Juvignac.
Ça dépendra des électeurs.
Ça dépendra des électeurs. Bon, Jacques Domergue, nous l'aurions souhaité, mais bon, il a une indisponibilité de dernier moment. Mais je manque à tous mes devoirs. La courtoisie aurait voulu que je commence à par elle. Anne Brissot, l'égérie montpelliéraine de l'UDI, qui a osé se frotter à Annie-Yvonne Le Dain dans une circonscription imprenable, faute de s'appeler Jacques Domergue et de vivre dans les années 2002. Mais la fouine craint le loup et ses acolytes. Alors, c'est l'indémodiable centrifugeuse lodévoise qui va nous rejoindre en la personne de Robert Lecoux. Bref, compagnons gaullistes, camarades centristes, nous vous saluons. Bonjour à tous et bonne divergence. Alors, Arnaud, candidat, t'abandonnes Montpellier ? Tu te réfugies dans la campagne ?
Ah non, je ne me réfugie pas. Je veux dire, je pense que j'habite à Juvignac, j'y travaille depuis de nombreuses années, j'ai de nombreux amis. Et c'est vrai que le maire et de beaucoup de mes amis m'ont demandé si je voulais apporter mes compétences au service des Juvignacois et des Juvignacoises. Donc je serai candidat en mars 2014 avec mon équipe pour reprendre le flambeau du travail qui a été accompli de manière considérable par Madame Santonja, et donc pour incarner justement la nouveauté, mais aussi la continuité de son travail et de son équipe sortante.
Donc le changement dans la continuité, c'est presque pompidolien, ça.
Exactement.
Bon, bah avant tout, il y a votre bolette préférée qui s'apprête à pousser un cri, voire à lancer une petite annonce. Rue de tâche, je vous en dis pas plus, ça va être à toi ma bolette, après le petit jingle.
Le cri de la belette par Jean-Pierre Foubert.
Une bonne droite et une bonne gauche. Rien de tel pour vous justifier une bonne république démocratique. L'hypothèse d'une alternance en serait le symbole, laissant croire à des changements possibles. Le principe de la représentation par délégation semble le moyen le plus adapté à la défense de notre conception de la démocratie très athénienne. Tous les spécialistes de sciences politiques savent la précarité du système où, selon le découpage ou charcutage des circonscriptions, selon le résultat obtenu avec le problème des seuils à franchir pour participer au second tour, le fait d'être inscrit ou pas sur les listes électorales, le fait, si c'est le cas, de participer, la non-prise en compte des votes blancs, le fait d'être un homme ou une femme, montrent la relativité du concept. Le processus de socialisation du citoyen par l'élection est-il encore adapté quand on sait que la participation est de plus en plus faible, comme si l'enjeu semblait de moins en moins évident ? Le vote des étrangers non communautaires, européens, sera-t-il demain une preuve de la volonté d'intégration ? Emmanuel Todd disait dans son livre « Par-delà la démocratie » que l'évolution de notre système pouvait aboutir à la suppression des élections sans que cela change en quoi que ce soit notre fonctionnement. La distance entre le peuple et les élites se creuse, il est vraiment temps de réagir. Réagir, réaction, mais pas forcément réactionnaire.
Bon ben voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Nous sommes en compagnie de Robert Lecoux qui est en train de se garer, qui va nous rejoindre, le centriste qui a choisi son camp, c'est-à-dire la droite, en compagnie de Arnaud Julien, le gaulliste sarkozysé en mal de chef, et on aurait aimé, mais il n'est pas là, Jacques Domergue, l'homme en blanc qui est toujours en quête de foi. La parole va être à vous maintenant, mais avant tout, on va parler un petit peu de vin. Bon, Arnaud, tu nous as amené une petite bouteille de vin. Alors, c'est quoi ce petit vin que tu nous as amené ?
Alors, c'est le domaine de la Marfée, c'est Frisson d'Ombelle. C'est un vin de Murvel et Montpellier, une appellation Saint-Georges d'Orc. C'est du vin blanc, hein, pour changer un petit peu. C'est vrai que d'habitude, vous êtes amateur de vin rouge. Eh bien, aujourd'hui, ça sera du vin blanc.
C'est parce que
on reconnaît la droite quand elle arrive. La droite amène toujours du vin blanc. Il n'y a que le Front National pour amener éventuellement du vin rouge.
Ça me rappelle.
À ce moment-là, c'est du croix rouge qui tâche, quoi.
La valeur des symboles.
Ça me rappelle midi blanc, midi rouge. Vieille thèse.
Exactement.
Bon, ça, donc on va profiter pour goûter ça. Mais tu ne nous as pas amené un vin de Juvignac. Pourquoi, il n'y en a pas à Juvignac ?
Ah si, il y a un vin qui s'appelle Domaine de Fourques. Mais celui-là était dans mon bureau. Et donc, je n'ai pas eu le temps de faire les courses, je dois avouer.
D'accord.
Bon, donc, mais je vous conseille aussi le vin de Juvignac avec grand plaisir. D'ailleurs, c'était un vin qui a été servi lorsque Nicolas Sarkozy était venu me soutenir à Fabrègue pour les élections législatives. Pendant la campagne présidentielle, il était venu et à sa table, on avait servi du vin de Juvignac.
Oui, alors effectivement, ce domaine que tu nous as amené, là, on n'est pas dans les petits blancs, là, on est dans un blanc quand même déjà sophistiqué, quoi.
Ah oui, oui.
On n'est pas dans le monocépage ou dans des choses comme ça, un peu boisé et tout. Donc on est carrément dans le bon vin. Donc ça, on peut rappeler hein, le domaine de la Marfée.
Là, à conseiller.
Une cuvée 2009. Tu as une idée au niveau des prix ? On est dans quelle gamme de prix là ?
Le prix, c'est 12 euros, je crois.
Ah oui, donc on n'est pas dans les petits vins. Quoi.
Oui, oui,
c'est
oui.
Peut-être un des défauts actuels des vins du Languedoc.
Ah oui, mais les
2009, de monter les prix
une bonne année,
de façon. Bon, fil des flacons, on va entrer en divergence. Une petite provoscopie pour commencer. Arnaud, t'es homophobe ?
Ah bah, absolument pas, non, je suis pas homophobe. Vous savez, la position de la droite, elle est assez simple. Aujourd'hui, on a aussi une valeur qui est la défense de la famille.
Le gros problème,
c'est pas le mariage. Je pense que le gros problème, c'est pas le mariage. Le gros problème, c'est l'adoption. Voilà. Moi, je suis désolé, pour faire un homme et une femme, jusqu'à preuve du contraire, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Et puis ensuite, de quel droit, franchement, je crois profondément, de quel droit un parlementaire peut voter une loi qui va interdire demain à des enfants d'avoir une père et une mère. Voilà. C'est la question qu'on doit se poser. Je pense que la société
française. Si, il pourrait avoir une père de mère.
Je pense que la société française est prête pour le mariage. Hein. C'est un mariage civil. Hein. Peut-être que ce que la droite aura dû instituer, c'est une union civile, un pacte s'améliorer. Hein. Finalement, le mariage, c'est ça. Mais sur l'adoption, je pense qu'il a fait une erreur. Parce que les gens qui sont détournés dans la rue, c'est justement principalement sur la question de l'adoption, où il veut déstructurer la famille. Et moi, ce que je reprochais souvent à la gauche nationale,
c'est, carrément nous dire que
c'est cette volonté manifeste de déstructurer notre nation, de diviser notre nation, alors qu'il faut au contraire la réunir. Et la réunir, ce n'est pas, comme l'a fait François Hollande, imposer, et même à ses députés socialistes, je le sais, par un vote unique et non pas un vote de conscience, le mariage.
Un célibataire, aujourd'hui, peut adopter ?
Un célibataire peut adopter grâce à la droite en plus.
Hein non, mais dans la mesure où
tous les célibataires ne sont pas homosexuels, monsieur. Ceux qui adoptent.
Voilà le centre droit qui arrive. Voilà le centre droit qui arrive. Robert Lecoux, bien le bonjour.
Mais où est le problème alors ?
On était en train de demander
problème,
à Arnaud Julien.
Le problème,
si,
c'est que
demander à Arnaud Julien s'il était homophobe.
On doit ériger nous qui faisons de la politique, nous avons un modèle de société, une famille avec des enfants, c'est un homme, une femme. Vous pouvez pas être d'accord avec ça. C'est tout à fait normal, c'est votre droit.
Pourquoi permettre
notre droit, c'est de défendre ce principe-là.
Non, mais pourquoi permettre à un célibataire alors d'adopter?
Un célibataire, par définition, il n'est pas toujours resté célibataire.
Non, puis en plus,
vous faites de l'amalgame entre célibataire et homosexuel. Enfin,
non, oui, c'est ça. Non, mais justement.
Moi, je suis célibataire, je suis pas homosexuel.
Moi, je ne fais pas d'amalgame, justement. Mais alors, pourquoi?
Non, mais vous faites l'amalgame parce que vous mélangez tout. Mais c'est votre droit. Mais moi, mon droit, c'est aussi défendre ma position. Et ma position est celle de ma formation politique. Sur le mariage, sur le mariage, je pense qu'il y aurait. Si Hollande avait été un peu fin technicien et politique, beaucoup plus politique, il aurait mis le mariage simplement et l'option pour plus tard. Et le mariage, la droite, on aurait été retrouvé un peu en difficulté, parce que je pense que l'opinion est plutôt favorable, même pas dans une grande majorité, mais plutôt favorable sur cette question-là. Que ce soit l'adoption, que ce soit à la gauche ou la droite, je pense qu'il y a une majorité de Français. D'ailleurs, je pense qu'il a fait une erreur aussi, c'est de faire un référendum. Sur deux questions, le mariage et l'adoption. Vous savez, on a été supprimé parce que le mariage serait passé.
Constitutionnellement parlant, c'est pas possible.
La Constitution, vous êtes bien passé pour le savoir. On peut lui faire tout dire et rien dire. Donc la Constitution...
C'est l'argument qu'avait utilisé la droite sur le Pax à l'époque, où la gauche demandait un référendum et on a expliqué
que
c'était anticonstitutionnel.
Mais vous qui êtes expert autour de la table en droit constitutionnel, vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui, in fine, a son mot à dire. Donc le référendum pourrait avoir lieu. Et le Conseil constitutionnel, jamais, ne mettra obstacle à une question posée au peuple français, n'importe laquelle. Et la Constitution...
Ça frise la forfaiture, ça.
Non, absolument pas.
Ça me rappelle 1962.
Absolument pas. Le Conseil constitutionnel, vous savez, aurait accepté ce référendum. De toute façon, il l'aurait accepté a posteriori, non pas a priori.
Ah, justement,
donc, à partir de ce moment-là, le référendum a pu avoir lieu. Et je pense que le constitutionnel n'aurait pas dit que le référendum était anticonstitutionnel.
Oui, mais par rapport aux chiffres, quand même, c'est intéressant de savoir qu'en moyenne, en France, un mariage civil dure 7 ans. C'est une moyenne que plus d'un enfant sur deux naît dans des couples qui ne sont pas mariés. À peu près 40% des enfants sont dans des familles recomposées.
Voire décomposées.
Vous allez en terminale, dans une classe de terminale, plus de la moitié des enfants dans une classe de terminale sont des enfants de familles qui ont éclaté. Donc est-ce que le sens famille, qui est très chrétien finalement, même si la République l'a adopté, etc., est-ce que ça a encore un sens et est-ce que vraiment cette loi va remettre en cause ou recréer une nouvelle famille, une nouvelle cellule mononucléaire, comme disent les sociologues, ce qui fait très médical?
Là, ce que vous dites, c'est que finalement, on le sait, les familles, malheureusement, sont bien souvent déstructurées. Hein. Et là, ils vont rajouter encore d'autres structures parentales. C'est quand même assez compliqué. Je pense que la société actuellement n'est pas prête. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera prête. Pour l'instant, je pense que la société française n'est pas encore prête à cette révolution finalement familiale. Et nous, notre devoir, c'est justement de défendre cette notion de famille qui est importante à nos yeux et qui, vous le disiez à l'instant, est quand même encore le fait majoritaire.
Alors, on va aller en Angleterre. Ça serait intéressant de regarder le discours de Cameron la semaine dernière, qui expliquait qu'il était conservateur et qu'il allait faire passer au Parlement britannique une loi sur le mariage et l'adoption. Exactement, à peu près, à quelque chose près dans les termes.
Oui, mais justement, je vous parlais de société. Est-ce que la société française, la société britannique sont identiques? Non. Moi, je vais souvent en Angleterre. C'est un pays qui est différent. Des mentalités encore différentes.
Nous sommes européens, les Anglais de moins en moins.
Et les Anglais sont de moins en moins européens, ça c'est vrai. Malheureusement, d'ailleurs, pour eux.
Mais enfin, une bonne nouvelle.
Mais
Et peut-être pour nous.
Mais je pense que la société anglaise est peut-être, sur certains aspects, beaucoup plus en avance qu'à la nôtre, tout simplement. Et que peut-être que l'avancée aujourd'hui de la société anglaise fait que la société est prête, et donc un gouvernement conservateur est prêt justement à faire passer les deux lois.
Robert Lecoux, il a quelque chose à dire là-dessus.
Il a quelque chose à dire. Oui, je trouve que c'est un vrai débat, et c'est un débat fondamental. Je pense qu'en France, François Hollande et les socialistes l'ont malheureusement mis sur la table de la plus mauvaise des manières. C'est un sujet qui ne devrait pas diviser la droite et la gauche. Je trouve que franchement, là-dessus, sur un sujet comme celui-ci, sujet sociétal, on devrait avoir une réflexion forte, fondamentale. Moi, j'aimerais que les médias fassent non pas une soirée à la télévision, mais 2, 3, 4 soirées sur ces sujets-là. Qu'on parle avec des philosophes, avec des chercheurs, avec des médecins, avec des Françaises, des Français, et qu'on aille au fond des choses, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la droite et la gauche qui se déchirent là-dessus. D'ailleurs, on le voit actuellement à l'Assemblée nationale, c'est quoi ça? C'est un débat où les socialistes se retrouvent dans la posture qui était la majorité de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que maintenant ils président l'Assemblée nationale, et ils vont être obligés de faire jouer le règlement pour dire qu'il va falloir qu'on vienne au temps programmé, parce que ça devient infernal, votre système, avec vos amendements. Voilà. Alors, franchement, les Français ne s'y retrouvent pas. Sur un sujet comme celui-là, moi, je dis que les politiques ne sont pas là pour organiser la société au sens de sa valeur morale. Ça, c'est l'affaire, parfois, des communautés religieuses, c'est l'affaire des communautés tout court, des communautés philosophiques, il faut qu'on en parle. Le politique, lui, quelque part, il doit suivre, là, sur ce schéma-là. Hein. Le système sociétal, il s'organise, c'est pas à lui à l'organiser. Le droit, la loi, c'est pas ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que le monde évolue. Alors, tout à l'heure, vous disiez, M. Fouvert, sur l'éclatement de la famille. Mais c'est vrai qu'on le constate. Bon ou pas bon ? Pas bon. Certainement pas bon. Hein ? Mais voulez-vous ?
Mais c'est une réalité.
C'est une réalité. Alors, parce que c'est une réalité, il faut qu'on continue à dégrader le système ? Ou il faut peut-être qu'on, fondamentalement, repose les problèmes ? Alors c'est là que le sujet du mariage mériterait d'être vu, non pas par le petit bout de la lorgnette droite-gauche, qui est absurde, mais par le vrai bout. Moi, par exemple, le mariage, moi je suis un homme. La liberté, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je comprends que des gens entre hommes puissent s'aimer, que des femmes entre femmes puissent s'aimer.
On voit que Robert Lecoux, maintenant grand patron départemental de l'UDI, a des éléments de langage, comme on dit, qui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'avant. Quoi.
Oh, Yves Le Bozec, vous n'êtes pas raisonnable et pas gentil quand vous dites ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Disons que Robert Lecoux, aujourd'hui, n'est plus dans l'action et dans la décision instantanée. Il est dans la réflexion.
Ah, enfin ça a été bien de réfléchir avant, non?
Mais bien entendu que je réfléchissais et que j'agissais et que je décidais. Mais non, mais attendez. Moi, je trouve que c'est bien de temps en temps d'être dans une posture qui permet de prendre un peu de temps et de recul. C'est ce qui se passe actuellement pour moi. Moi, je suis un acteur public.
Donc c'est un bain de jouvence que d'être dans l'opposition.
Quelque part, ça fait du bien, mais ça c'est toute la chance de la démocratie et de l'alternance. Hein. On a une chance dans ce pays.
Mais c'est pour vous être agréable que la gauche vous a mis dans l'opposition.
Mais écoutez, je lui dis non, merci.
Vous faites un repli sur vous-même.
C'est votre côté altruiste qui dit de temps en temps, il faut laisser un petit peu la gauche au pouvoir, parce que quand même, quand on fait le décompte sur les cinq républiques, la droite a dû être au pouvoir 80% du temps.
Oui, mais il faut que reconstruire en peu de temps Jean-Pierre Foubert, ce que la gauche en peu de temps arrive à casser. C'est terrible. Mais je reviens à ce débat sur... J'aime ce débat-là qui mériterait, moi. Le mariage, quelque part, que la liberté existe, c'est formidable, et que les gens veuillent préserver leurs droits, avoir des relations qui soient stables et qui puissent permettre, notamment sur la transmission du patrimoine et autres, de régler les problèmes. Je suis 100 fois d'accord, et je suis d'une tolérance extrême pour dire que, d'ailleurs, cher Yves, c'est la tolérance, c'est la marque du Parti radical. Hein. Donc, je voudrais dire que
les radicaux qui disaient aussi, y a-t-il des limites à la tolérance ? Oui.
Oui, l'intolérance, bien entendu. Mais donc, je reviens sur le mariage, oui. Mais derrière, il y a quand même tout ce qu'on est en train d'évoquer, quoi. Hein. La gestation pour autrui, ça, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle énormément. Énormément. C'est la mercantilisation.
Ça interpelle au-delà
de la droite. Mais aujourd'hui, c'est caché derrière le débat. Pourquoi ?
Alors, c'est pas venu encore sur la table.
C'est pas venu sur la table, ça devait venir.
On y arrive tout doucement. Attendez. Parce que hier il était question de PMA.
Non, mais la PMA n'a rien à voir avec la gestation.
Enfin, tout ça se tient.
Je crois que quand même, il y a des amalgames qui se font.
Bah, des amalgames, mais attendez, mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'amalgame ? Vous avez vu hier la position de la ministre, puis la position du Premier ministre, et puis maintenant, je viens d'entendre dans les radios que le Premier ministre essayait de rectifier ce qu'il avait dit hier pour essayer de calmer les choses. Non, vraiment, je trouve que ce débat qui a été mis sur la table et qui est fondamental, il n'avait pas à être mis sur la table. D'ailleurs, ceux qui l'ont mis sur la table, les socialistes, ne sont pas très à l'aise là-dessus. Ils sont divisés même entre eux. Il y a d'autres sujets qui aujourd'hui sont de la compétence réelle de nos gouvernants. C'est le problème de l'emploi. Oui, ça, c'est un vrai problème. C'est le problème de la délocalisation des entreprises. Comment fait-on ? C'est ça qui inquiète les Français aujourd'hui. Alors là, on lance ça. Alors est-ce que c'est de la division, de la diversion ? Et pourtant, c'est fondamental. Je le regrette.
Alors moi, il y a une petite chose là qui m'interpelle, parce que entre Robert Lecoux et Arnaud Julien, au niveau des éléments de langage, j'aurais l'impression que c'est Robert Lecoux le gaulliste et pas Arnaud Julien.
De Gaulle. Je revendique.
Parce qu'en fait, De Gaulle n'a été de droite que parce que le Parti communiste occupait le terrain à gauche à l'époque. Alors je comprends pas pourquoi vous vous réclamez de la droite tout en se réclamant de l'héritage de De Gaulle.
Mais attendez.
Donc on était au-dessus des partis.
On se réclame de quoi? De la droite et de la gauche? Mais ça veut dire quoi, ça, quelque part? Encore aujourd'hui, ça.
Ah bah Arnaud, Arnaud, tu te réclames de la droite.
Non mais attendez.
Clarinette,
là, vous essayez de mettre encore un coin pour essayer de nous piéger.
Ouais. Non, là, franchement. Non.
Jamais dans l'émission Provoscopie.
Jamais.
Mais vous n'y arriverez pas.
J'ai remarqué que selon les interlocuteurs que vous avez, que ce soit à droite ou à gauche, vous êtes un peu clément avec eux. Avec à droite, par contre, nous, chaque fois, c'est le mot gaullisme et compagnie. Le gaullisme, c'est une idée de la France qu'on partage avec Robert. La défense de la nation, la défense de la patrie. C'est aussi du pragmatisme. Je pense que c'est aussi...
La défense de la nation, la défense de la patrie, aujourd'hui, ça, c'est le quasi-monopole du Front National.
Non, c'est le monopole de personne. Et c'est même pas le monopole de la droite. La gauche aussi peut défendre aussi la patrie. On le voit et on l'a vu avec certains leaders de gauche. Comme
oui, en 14 et 39, mais enfin, quand même.
Qui avaient des notions de défense de la patrie.
Absolument.
Donc, je veux dire, c'est pas une question de gauche ou de droite, mais c'est que nous on le revendique, et aussi une valeur aussi qu'on apprécie beaucoup dans le gaullisme, c'est le pragmatisme. Et en politique, la gauche devrait se souvenir un peu que le pragmatisme souvent est bon conseil.
Ah, c'est quoi la gauche pour vous?
La gauche aujourd'hui, pour moi, c'est malheureusement la pensée unique et la bien-pensance. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne, très sincèrement. C'est l'anti-liberté pour moi. Voilà. Je trouve que si vous ne pensez pas comme les gens de gauche, comme les intellectuels de gauche, ou que j'appelle ça...
Ça, c'est un pléonasme, intellectuel de gauche.
Oui, c'est Georges Suffert qui avait dit, le fondateur du Point, les intellectuels en chaise longue. Ça me plaît énormément comme formule. Vous êtes là, vous observez, vous constatez, vous dites, il n'y a qu'à Faucon. Arrêtez, la vie, elle est plus complexe que ça. C'est le cambouis, c'est les mains dans le cambouis, c'est les pieds dans la glaise. C'est ça la vie. La réalité, c'est le pragmatisme, oui. Et la gauche, elle est dans l'intellectualisme. Mais à un moment donné, si on ne fait que de l'intellectualisme, ça peut se concevoir. Mais je trouve qu'on a atteint le summum.
C'est que la gauche réfléchit.
Le summum de l'imposture avec cette élection présidentielle qui vient de se dérouler sous nos yeux. Mais enfin, moi président jeu. Et aujourd'hui, président, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller au Mali, oui, mais pour essayer de dire, regardez, le plus beau jour de ma vie, je le vis là-bas, à Mamako.
Il est au Mali avec un président, j'aime bien les médias de notre pays, un président par intérim. Le président malien, il est arrivé par un putsch militaire. Imaginez alors. Nicolas Sarkozy à droite d'un putschiste militaire au Mali, ce qu'auraient dit les médias. Ce qu'auraient dit les médias quand ils essaient d'étouffer l'affaire de 12 civils maliens qui ont été tués par l'armée française et que les Anglais que sortent l'affaire et que nous, on essaie d'étouffer. Donc, attendez, il faut dire la vérité.
Ça s'appelle les dommages collatéraux.
Ah, bien sûr, oui, mais moi, j'aime bien la question que vous avez posée. Qu'est-ce que non, c'est que la gauche un, moi, plusieurs... j'y reviens de la gauche. Non, parlons-en. Parce que souvent, on caricature la droite. La droite, c'est la réaction, c'est le conservatisme. Attendez, mais qu'est-ce que c'est la gauche? C'est l'imposture, mais qui s'est incarnée avec cette élection d'une manière. Mais grossière, parce qu'on a surfé sur un anti-sarkozisme primaire, sur le refus du manichéisme qui fait qu'on ne veut pas l'UMP face à donc le parti unique face au parti unique de la gauche avec le parti socialiste. Et je trouve que la gauche, parlons-en. Moi, je trouve que oui, ce sont les gens de gauche, ils veulent imposer leur pensée.
Alors, revenons à la droite.
Ah non, mais ça vous gêne, ça.
Non,
parlons-en un peu. C'est intéressant.
Arnaud, tout à l'heure, le pragmatisme. C'est intéressant. Le pragmatisme à droite, ce serait quoi? Ce serait promettre des choses dans une campagne électorale et ne pas les appliquer, comme le vote des étrangers.
Comme le fait la gauche en ce moment,
non, mais comme ça, la proposition de Nicolas Sarkozy en 2002 sur le vote des étrangers.
Mais il est revenu là-dessus. Hein.
Justement, c'est ce que je dis. Donc le pragmatisme, attendez, ce serait un programme non appliqué.
Non, le problème de la droite, c'est que souvent, elle n'a pas la force et le courage d'aller jusqu'au bout de ce que doivent être les réformes dont la France a besoin. Je veux dire, moi, le deuxième mandat de Nicolas Sarkozy aurait été un mandat utile à la France. Malheureusement, et ça c'est le problème de la démocratie, mais la démocratie étant le pire des régimes, mais c'est celui que je préfère parce que c'est le moins mauvais par rapport aux autres, je fais avec.
Dit Churchill,
mais... Oui, je fais avec. Mais franchement, sur un mandat de 5 ans, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Surtout si vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout et donc d'être réélu. Aujourd'hui, avec ce système-là, vous êtes coincé. Donc, la droite n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pendant les 5 premières années du mandat de Sarkozy, de ce qu'elle aurait dû faire.
Alors pourtant, si on en revient justement au concept de la droite, ça a été conceptualisé par René Raymond en son temps. Le sarkozysme aura incarné très certainement le bonapartisme.
Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut se sentir bien à droite lorsqu'il y a pénurie de chefs ? Puisque Sarkozy, bon, il a jeté l'éponge, semble-t-il. Oh. Alors vous n'avez plus de chef. D'ailleurs, on a vu la problématique qui s'est posée à l'UMP entre Copé, Fillon, etc. Bon, alors que Sarkozy s'était imposé comme chef, presque naturel au niveau de la droite. Vous n'avez plus de chef. Est-ce qu'en fait, c'est pas ça le problème de la droite
aujourd'hui ? Les chefs à gauche, où ils sont ?
Non mais la gauche n'a jamais été bonapartiste.
Oui, mais en fait, on a besoin d'un chef à un moment donné.
Quoique, bah, voilà. Que ce soit à l'UDI, il y a un patron, il s'appelle Jean-Louis Borloo. À l'UMP, nous avons un patron, hein, il s'appelle Jean-François Copé. Donc je veux dire, on a des patrons. Après, nous avons aussi des leaders. Hein, à l'UDI ou à l'UMP, nous avons des leaders. Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Fillon et d'autres. Enfin, je veux dire, c'est naturel dans un parti politique d'avoir un chef, le chef du parti, et puis après, à côté, d'avoir des leaders nationaux. Il ne faut quand même pas oublier que nous avons exercé des responsabilités nationales pendant 10 ans. Nous avons eu des ministres qui ont travaillé, nous avons eu des premiers ministres. Et effectivement, ils ont une carte à jouer aussi dans l'échiquier politique national.
Comme en 68, les Français ont dit 10 ans, ça suffit. Quoi.
Mais quand vous dites il faut un chef, oui, quelque part.
Ah non, il faut un chef.
Non, mais le mot chef, vous voyez, le mot chef, il est. Le mot anglais leader, par exemple, est plus positif. Le mot chef français, on l'a un peu dénaturé. À un moment donné,
c'est qui on est un pronom indéfini et malhonnête.
Il faut un porte-drapeau.
Qui c'est le on ?
Le chef, c'était l'argument numéro un de la droite. Hein. Il y a quelques années en arrière, effectivement, en montrant la gauche du droit, en disant la gauche n'a pas de chef, nous avons un chef.
Mais si, la gauche a eu des chefs, elle a eu un chef. Il s'appelait Mitterrand. Et depuis, elle n'a plus trop de chefs.
Une dernière petite chose, avant qu'on fasse une pause musicale. Bon, au niveau de la droite, c'est vrai que vous êtes un peu en recomposition, du moins, sur différents stades, et notamment... Moi, je me demande, qu'est-ce que l'UDI vient faire dans ce bazar ? Il y avait une UMP, un parti unique, on pourrait dire, de la droite. Et puis alors maintenant, il y a une UDI qui voudrait faire renaître une espèce d'UDF, qui se réclame du centre, mais qui est quand même à droite. Enfin, qu'est-ce que vous venez faire dans ce bazar ?
Ben, vous avez parlé d'une recomposition. Attendez, nous, à droite et au centre, on ne prend pas les leçons qui viennent de nous être données, c'est que franchement, on est à côté de la plaque. Les leçons, c'est quoi ? L'UMP avait pour objectif de rassembler sous la houlette d'un parti unique l'ensemble des familles de la droite et du centre, ou des droites et des centres.
C'est le parti unique, quoi.
Oui, à l'excepter, c'est pas le parti unique. C'est la bipolarisation à la française qui n'existe d'ailleurs pas, puisque à gauche, il n'y arrive pas non plus. Hein. Le parti socialiste est hégémonique, mais il a bien besoin...
Justement, à gauche, il n'y a pas la pensée unique.
Vous plaisantez. Alors là... je reviens à l'UDI.
La gauche, c'est depuis 1920, le congrès de Tours, et la droite, c'est depuis l'élection de Giscard d'Estaing.
Non, mais attendez. J'essaie d'analyser la question aussi qui est intéressante. Pourquoi l'UDI ? Parce que l'UMP n'a pas réussi à rassembler toutes les familles, c'est clair. D'ailleurs, dès l'origine. Moi, j'ai été un constructeur de l'Union parce que je crois dans l'Union pour l'efficacité. Bon, j'ai construit l'UMP avec mes amis, mais j'ai constaté dès l'origine qu'il y a des centristes qui ne se sont pas sentis à l'aise et qui ne sont pas venus dans la famille, dans le parti, donc unique sur la droite. Premier échec. Cet échec, malheureusement, la plaie s'est agrandie, puisque plus on a été dans le temps, plus il y a eu, je dirais, de volonté de la part de certains UMP d'avoir une capacité d'expression hors de ce parti unique. Et puis, il y a aussi l'autre constat, c'est que, bon, sachons le dire, c'est que toutes les élections qui se sont passées, l'UMP a fait le grand chelem, quoi. Hein, on a tout perdu. Hein, des municipales jusqu'aux élections nationales en passant par les européennes. Donc, si aujourd'hui, nous, à droite et au centre, on ne cherche pas, face justement à cette tentation monopolistique du Parti socialiste, à se réorganiser, on est à côté de la plaque. D'où le projet UDI, que moi, je considère comme étant un projet pragmatique qui consiste à offrir aux Françaises et aux Français une alternance, parce qu'il y en a qui ne veulent pas voter UMP, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec les options de la gauche et les options du Parti Socialiste. Et bien cela, il faut qu'on arrive quand même à ne pas les laisser filer, à ne pas les laisser partir, et c'est pourquoi l'UDI se met en place. Bon, c'est pas simple.
Donc l'UDI serait démocratique.
Ou le centre serait à droite.
Ou le centre serait à droite, ça.
Oui, alors le centre est à droite.
On converse, on digresse, on diverge, bon, tout ça c'est agréable et tout, mais... Il faut qu'on se détende un tout petit peu, quelques notes de musique afin de se resociabiliser un petit moment et on se retrouve d'ici la fin du morceau de musique. We'll be right back.
le coup de pinceau du renard par Jean-François Gibert.
La droite, après 10 ans d'exercice du pouvoir, est dans l'opposition. Voilà venu le temps de prendre de nouvelles attitudes. Il semblerait que le temps d'adaptation au changement de statut ait été difficile. Au point d'oublier que le mandat du président de la République François Hollande, comme celui des représentants de l'Assemblée nationale, est de 5 ans. 5 ans, putain, c'est long. Comme disait la marionnette de Jacques Chirac au Guignol de l'Info. Il en résulte un mélange d'impatience et d'ambition. Le costume d'opposant n'est pas celui qui sied le mieux à la droite, soit par manque d'habitude, soit parce qu'elle le considère comme une anormalité, un déguisement en quelque sorte. Certains, dans leurs vêtements trop amples, se perdent dans l'insignifiance, se positionnent, se repositionnent dans la fausse absence ou le silence assourdissant. D'autres se sentent à l'étroit et pourront sortir avec celle dans l'excès. Les ambitieux de l'UMP, qui ne pensent qu'à reprendre la direction du pays, dans leur impatience n'ont pour unique solution que la critique systématique de toutes les réformes que feront les socialistes. Quand la droite reproche au gouvernement socialiste un manque de courage à prendre des mesures d'austérité antisociale, qu'elle n'a pas pu ou n'a pas osé prendre alors qu'elle était au pouvoir, elle s'installe dans la surenchère idéologique. Quand la droite déplore une absence de vision gouvernementale alors qu'elle regarde l'avenir dans un rétroviseur avec nostalgie, elle appelle modernité la défense des privilèges de classe. Elle se décline avec profusion d'adjectifs, décomplexée, forte, populaire, sociale, et met en scène son Koh-Lanta politique.
Bon, eh ben ça, c'est dit, c'est plus à dire, parlons peu mais parlons bien. On va se retourner vers nos amis et compagnons de la droite. Retour dans nos studios à la compagnie de Robert Lecoux pour l'UDI, d'Arnaud Julien pour l'UMP. Que demande le peuple? Avant de revenir sur les thèmes qu'on a choisis, parlons encore un peu de flacons et de vin, parce que Robert Lecoux nous a apporté aussi un flacon. Alors, qu'on va goûter, hein, un domaine de famille longue de 2003, oui. Saint-André de Saint-Gonis, c'est-à-dire bon, le terrasse du Larzac. Les terrasses du Larzac, ça, on est quand même dans les grands vins, non seulement de l'Hérault, mais du Languedoc. Alors, avec au niveau cépage, bon, bah, c'est une myriade de cépages, tous les grands cépages. Syrah, Grenache, Mourvèdre, Saint-Saulx, Carignan. Enfin, les 5 grands cépages qui font la haussée de la région. Alors, pourquoi ce vin plus qu'un autre?
Un grand vin de France même, mais aussi du monde, hein, pas simplement du Languedoc. Pourquoi ce vin? Parce que, ben, vous l'avez dit, Terrasse du Larzac, c'est un vrai pari à l'époque. Moi, j'avoue que j'ai été surpris quand on a mis le Larzac à côté du vin. Parce que c'est vrai que le Larzac, c'est plutôt le plateau, la montagne, c'est le mouton.
Les cailloux et les mauvais moutons, oui.
Voilà. Mais je trouve que, quelque part, il faut reconnaître que le Larzac est un mot qui maintenant est un nom qui est connu à l'international. Et ces vins, les terrasses du Larzac, font partie des meilleurs vins de notre région. Ils montent. Moi, j'ai la chance d'avoir été député pendant 10 ans sur une circonscription où j'avais des vignobles extraordinaires, que ce soit le Pic Saint-Loup, que ce soit les terrasses du Larzac, les grès de Montpellier. Et alors, pourquoi famille longue de Saint-André de Saint-Gonis? Tout simplement parce que c'est un vin que j'ai acheté à cette belle manifestation qui a été organisée au Pic Saint-Loup, qui est donc une vente aux enchères par le Pic Saint-Loup pour les terrasses du Larzac. Voilà, donc ça permettait de faire un petit clin d'œil à une belle circonscription.
On est dans quelle gamme de prix, là?
Ça, c'est des vins qui se font à 15 euros.
Oui, donc un petit peu comme le vin de Arnaud tout à l'heure. On n'est plus dans ces vins de 3 euros, 4 euros, 5 euros, parce que 15 euros, si je me rappelle les vieux francs, ça fait 100 balles, quoi, ça fait 100 francs.
C'est cher.
100 francs, c'est pas rien, quoi.
Oui, mais ça, c'est toute l'évolution du vin. Hein. Le vin,
c'est pas un tort de ces vignerons de souvent de monter les prix, attendez, arriver à des prix qui sont limite bourguignon ou bordelais.
Il y a 20 ans, les gens qui faisaient un vin correct produisaient entre 60 et 80 hectos à l'hectare. Là, maintenant, les gens qui vendent ces vins dans ces gammes de prix sont des gens qui sont entre 25 et 30, 32 hectos à l'hectare. Donc, de toute façon, la production a diminué et l'espace cultivé a largement diminué.
Et le prix est le résultat réellement du travail que nécessite ce genre de culture. Maintenant, c'est aussi une autre façon de boire le vin.
Allez, j'ai une petite question de Francisou, pour tous les deux. Ce serait quoi un vin de droite?
Un vin de droite?
Ouais.
Un vin blanc.
Oui, on pouvait imaginer ça. Mais
oui, parce qu'Arnaud n'a pas manqué de nous apporter un vin blanc. Mais on remarque que le représentant de l'UDI nous apporte un vin rouge, donc...
Parce qu'on voulait se compléter. C'est toute la force de l'UDI, de l'UMP, c'est d'être... En se rajoutant, on sera meilleur.
Le modem était plus fin, il apportait un rosé. Le modem. Marc Dufour, si tu nous entends, on te salue.
Le modem, c'est comme le rosé, c'est pas la saison.
D'accord. Allez,
question de température également.
Bon, allez, ça c'est dit. Bon, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de ce que fait le gouvernement de M. Ayrault, dont le président est Hollande. On va provoscoper un petit peu la politique internationale de Hollande et du gouvernement. Bah, tout simplement, mon premier truc, est-ce qu'il n'a pas eu raison d'aller au Mali?
Moi, j'ai dit, puisque j'ai eu l'occasion, quand j'étais à l'Assemblée nationale, de présider le groupe d'amitié France-Mali. Donc, je connais bien le problème du Mali. J'ai des amis Touareg. J'ai eu l'occasion de faire des voyages à Bamako avec des délégations de l'Assemblée nationale. J'ai été interpellé immédiatement après la décision d'intervention du président Hollande. J'ai immédiatement dit que c'était une décision qu'il fallait prendre parce qu'il y avait un vrai danger à l'époque. On l'a peut-être déjà oublié, mais avec quelques pick-up et quelques armes, les terroristes intégristes étaient en train de foncer sur Bamako. Et dans un pays en déliquescence où il n'y a pas de système organisé, où l'armée n'existait plus, on allait se retrouver avec un Mali occupé par des terroristes et par des intégristes d'ACMI, et il fallait faire quelque chose.
Vu de notre côté de la Méditerranée, des résistants.
Non, c'est pas des résistants. Quand on fait la charia, écoutez, allez voir un petit peu les reportages qui ont été faits sur.
Ah, quelque part, Ben Laden me fait penser à De Gaulle, moi.
Oui, mais écoutez, pensez à ces femmes et à ces hommes qui ont dû subir à Tombouctou, à Gao et à Kidal ce qu'a été le comportement de ces intégristes-là.
Et pensez à ces hommes et à ces femmes qui ont eu à subir De Gaulle de 58 à 69.
Bon, qui sont très, très dangereux. Et je pense que il fallait prendre la décision qui a été prise. Elle a été prise, d'ailleurs, on a pu s'apercevoir. Et ça, c'est peut-être aussi la différence entre la gauche et la droite. C'est que nous, quand il y a à un moment donné un sursaut national, d'unité nationale à faire, on le dit, on le fait, et on met en même temps nos paroles et nos actes en action. Il fallait le faire, ça a été fait, c'est bien.
Voilà. Oui, enfin, si la gauche était opposée, encore que pas de façon virulente, à l'intervention en Libye, on voit aujourd'hui les résultats. C'était pas forcément la meilleure idée de virer Kadhafi.
Kadhafi a été un grand démocrate. Giscard s'est démarqué quand même.
Je pense que vous auriez préféré laisser Kadhafi au pouvoir, sauf que vous le savez, vous qui êtes passionné d'histoire, si la France n'était pas intervenue en temps et en heure, à Benghazi, il y aurait eu un bain de sang.
Ça, c'est clair.
Il y aurait un bain de sang, comme sans doute vous avez vu à Tombouctou ou à Gao, les femmes qui enlèvent leur tchador, enfin leur burqa, enfin en l'occurrence c'est même pas un tchador, c'est une burqa. Enfin je veux dire, l'islam, Robert le connaît bien, l'islam qui est pratiqué au Mali est un islam tolérant.
Oui.
Voilà, c'est un islam qui est classique, on va dire. C'est pas un
soufiste.
Voilà. Et quand on voit que ces pseudo, comme vous appelez ça, les résistants qui ont quand même essayé de brûler des archives universel à Tombouctou, ce sont des terroristes, il faut les traiter comme tels, sauf que maintenant, il n'y a pas eu de combat véritablement, ils sont partis dans les montagnes.
Il faut le faire à l'Algérienne, à l'Algérienne ou...
Ils veulent nous entraîner justement dans cette guerre d'usure sur laquelle il ne faut pas aller...
Moi je pense que ce que tu dis est essentiel, c'est-à-dire, c'est vrai, les tortures, les mains coupées, etc. Mais moi ce que je pense, alors c'est peut-être provocateur de dire ça, mais je pense que le fait que les les gens, les terroristes, se soient attaqués à des livres multicentenaires et détruits des mausolées. Je ne suis pas croyant, donc ce n'est pas un problème à la religion.
Comme les talibans
l'avaient fait en Afghanistan. Et se soient attaqués à la culture, comme les talibans avaient fait sauter les bouddhas géants, etc. Bamiyan, c'est très significatif. À chaque fois qu'il y a une société qui est totalitaire, elle s'attaque à la culture. Elle peut s'attaquer au corps des gens, mais elle s'attaque à la culture. Moi, ce qui me gêne dans la situation actuelle, c'est le fait que le Qatar, d'un point de vue financier, apparemment, soit impliqué dans le financement de réseaux comme cela. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant.
Alors, derrière le Qatar, il y a beaucoup de choses. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout ça, il y a beaucoup de... Vous savez qu'il y a un système monarchique avec beaucoup de familles, beaucoup de princes. Et après, derrière le mot Qatar, il y a beaucoup de choses derrière. La France, historiquement, travaille beaucoup avec le Qatar, avec le gouvernement du Qatar. Et après, comme en Arabie Saoudite, vous savez que la famille Ben Laden était financée par une partie de la famille d'Arabie Saoudite.
Ce qui est bizarre, c'est que la France...
Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Après, c'est à nous, pays occidentaux, de demander au Qatar, effectivement, de faire un peu la police chez lui.
Ce qui est bizarre, c'est que la France aujourd'hui, combat les islamistes terroristes au Mali, et les mêmes en Syrie, on les soutient contre Assad.
Ouais, écoutez,
donc ça, c'est quand même pas tout à fait clair.
Non, mais là, c'est plus compliqué. On dit, sincèrement, c'est le sujet tout à l'heure sur le mariage pour tous.
Quand on dit c'est plus compliqué, on commence à faire de la langue de bois. Là.
Oui, bah, écoutez, on peut faire la langue de bois en disant qu'autour d'une table, on peut en parler. Mais vous avez évoqué, la Libye. Arnaud a bien fait de rappeler qu'on a évité un bain de sang, parce que ça, on l'oublie. Il y avait un vrai, vrai danger de massacre à Benghazi lorsque la France est intervenue avec d'autres en Libye. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Tunisie, quand on voit ce qui se passe en Égypte, on est en train de mettre le pied dans des territoires, dans des pays où la culture, où les repères ne sont pas les mêmes que chez nous. Et je pense que la volonté que l'on a, et qui est fondée peut-être, de vouloir importer notre démocratie dans ces territoires-là, se confronte à des réalités de terrain, de communautarisme, de tribalisme et de religion qui sont beaucoup plus complexes que ça. Et pour la Syrie, faisons attention.
Oui, le tribalisme, c'est vrai en Libye, c'est pas forcément vrai en Tunisie. Quoi. C'est vrai que Bourguiba, ça n'était pas Ben Ali, quand il y a les premiers soubresauts d'une révolution en Tunisie, le dérapage de Ali Omari sur le fait que de dire nous on sait maintenir l'ordre, etc., on peut vous envoyer nos pelotons de CRS, c'est une catastrophe. Moi, ce que je trouve lamentable quand on voit les projets de constitution de la Tunisie où on propose effectivement que les femmes ne soient qu'un complément à l'homme et des choses comme ça, c'est inacceptable. Quoi.
Voilà.
Mais en même temps, il y a des intérêts économiques évidents entre la France et la Tunisie qui font que effectivement on joue la diplomatie, on peut dire des choses, pas tout dire, et que c'est toujours le même problème. On sait très très bien que, comme Arnaud le disait il y a un instant, la famille Ben Laden, alors pas Ben Laden en tant que tel, mais sa famille avait des réseaux économiques extrêmement impliqués en Arabie Saoudite et aux États-Unis au moment où les avions percutaient les tours.
Il y avait deux sociétés où Ben Laden et Bush étaient actionnaires.
Absolument.
De la même
société.
Avec une différence d'échelle.
Je pense qu'il avait raison, que Robert avait raison de dire, Robert Lecoux, pardon, avait raison de dire que, effectivement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
C'est vrai.
Regardez ce qui s'est passé en Irak. En Irak, vous aviez une communauté de 900 000 à 1 million de chrétiens. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Absolument.
Il
n'y
en a plus. Alors moi, je ne veux pas dire que le régime de Saddam Hussein, qui était un régime dictatorial, était acceptable. Mais quelque part, on met le pied dans des territoires où les cultures, où les mentalités ne sont pas les nôtres à l'occidental. Et là, il faut qu'on soit très vigilant et très attentif.
Je voudrais qu'on revienne à la politique nationale. La droite endette la France. On l'a vu de 2007 à 2012. La gauche fiscalise les Français. Depuis que Hollande est revenu au pouvoir. Alors, à quand une politique qui répartit les richesses nationales ? Sachant que, quand même, le PIB français, aujourd'hui, n'a jamais été aussi élevé.
Donc on n'a jamais produit autant, parce que le PIB, c'est...
Et que les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas.
Aussi bas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part un problème? Et puis un retour de balancier, parce qu'on disait avant que la gauche vidait les caisses et que la droite les remplissait. Là, on s'est aperçu que 2007 à 2012 au minimum, la droite a vidé les caisses et que la gauche voudrait les remplir en fiscalisant les Français.
Fillon, Fillon, qui n'est pas un homme de gauche, avait constaté qu'effectivement, il n'y avait plus d'argent dans les caisses.
Il n'y avait plus d'argent dès 2007. Sapin vient de s'en apercevoir début 2013. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, tout simplement, d'une vraie et saine répartition des richesses, qui n'a pas été faite de 2002 à 2012, pas guère plus avant, et puis toujours pas aujourd'hui.
Bon, alors, avant de répartir les richesses, il faut les créer, déjà. Hein,
ah bon, on n'a jamais été aussi riche, le PIB français. Oui, il n'a jamais été aussi élevé.
Mais les Français sont-ils aussi riches?
Eh non, c'est ça le problème.
Le CAC 40 sur l'année 2012, c'est plus 14,3% voilà, quand même. Voilà.
Oui, non, mais...
Il partait de
moi
aussi, avec la crise économique.
Bon, attendez.
Le pays s'enrichit. Les inégalités s'accroissent.
Oui, il y a un problème.
Il faut éviter cette espèce de... Ce mot manichéen qui est un peu complexe et qui veut dire qu'en fait, parfois, c'est le bien et le mal, c'est la gauche et la droite. C'est trop simple. On a des raisonnements simplistes. Hein, et je pense qu'en effet, il faut avoir le courage de vivre la démocratie.
Robert Lecoux est en train de nous dire que c'est compliqué d'être simple.
Non, mais je vous dis que la démocratie est un régime qui mérite un peu
d'être... Moi, je dirais plutôt que c'est simple d'être compliqué.
La démocratie est un régime qui mérite de l'intelligence, de la tolérance et de l'écoute.
Voilà. Ça, si c'est pas la langue de bois, je sais plus ce que c'est la langue de bois. Bon, je vous renvoie au bouquin de Christian Delporte, une histoire de la langue de bois.
Si chaque fois qu'on parle, on est en langue de bois. Non, moi, je veux dire par là que la démocratie, c'est quoi? C'est le système de la représentation. Le peuple élit ses représentants. Ces représentants, s'ils veulent gérer, il faut qu'ils aient un minimum de temps pour pouvoir le faire. Et pour cela, le temps démocratique de 5 ans pour une élection d'un président de la République ou pour l'élection d'un député ne convient pas avec le temps de l'efficacité du
pragmatisme. Qui c'est qui a fait voter le quinquennat, la réforme par référendum en 2000?
C'est François Bayrou. Voilà.
Oui, non,
avec le soutien de Jospin.
C'est Chirac, Jospin. Chirac était président, Jospin premier ministre. D'accord. OK, il y avait aussi François Bayrou.
Oui, d'accord, ça va. Mais ce que je reviens, donc, comment voulez-vous, sur une période courte arrivée, apporter les réformes qui sont des réformes difficiles à faire pour les Françaises et les Français? C'est compliqué. Bon, oui, alors c'est de la langue de bois. Ben écoutez, ce qu'il faut, moi je pense que c'est du courage politique. Et je dirais que l'élection de Hollande, qui a montré qu'à un moment donné, la démagogie et le mensonge permettaient de gagner une élection, mais qui débouche sur l'insatisfaction par rapport à la gestion du pouvoir, doit nous amener, nous, dans l'opposition, à faire une cure de vérité. Il faut qu'on dise la vérité aux Françaises et aux Français. Et il faudra que lorsqu'on sera au pouvoir, on mette en œuvre les réformes qui seront celles de la vérité. Et aujourd'hui, François Hollande a été élu sur un programme qui n'était pas réaliste. Il ne le met pas en œuvre. Mais il faudra que nous soyons capables aujourd'hui...
Vous devriez être content s'il ne le met pas en œuvre. Mais non, parce que ce n'était pas réaliste.
Mais oui, mais d'accord. Mais en attendant, les Françaises et les Français en pâtissent.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans un grand bal des faux culs où on sait très très bien que la marge de manœuvre des politiques est extrêmement...
Il exagère.
Bon, je retire mon mot. Mais est-ce que
on le rajoute, on le remet. Grand bal des faux culs.
On est dans un jeu où manifestement la classe politique a une marge de manœuvre extrêmement restreinte, où on sait que 90% de la finance est une finance qui est internationale et qui donc échappe complètement aux règles, métropolitaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas une vraie réforme de la fiscalité, déjà en France, ce qui serait au moins une bonne chose que promettent tous les gouvernements depuis 1958, hein, peut-être même avant d'ailleurs. Et est-ce qu'on ne pourrait pas assainir le rapport entre le peuple et les élites, hein, politiques en tout cas, redéfinir les possibilités d'intervention du monde politique par rapport au monde économique?
Mais est-ce que la marge de manœuvre entre le politique et l'économique, c'est la vraie marge de manœuvre? Est-ce que la marge de manœuvre, c'est pas entre le politique et le peuple qui fait l'élection? Voilà. Alors bon, c'est de la langue de bois, ça. Je pense qu'il faut...
Oui, monsieur. Non, c'est Yves qui dit
oui,
ça.
Monsieur, oui, monsieur, moi pas.
Non, mais attendez. Et moi, je pense que le politique doit avoir la main sur l'économique et sur le financier. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Et il a la capacité, d'imposer un certain nombre de choses. Mais il faut qu'il ait... Pour ça, il faut qu'il ait le...
Comment peut-il l'avoir s'il n'a pas la même mise sur la fiscalité ?
Il y a deux
fiscalité.
Mots, vérité et courage. La vérité et avoir le courage de mettre en œuvre les réformes dont la France a besoin.
Non, mais pour l'instant, un pays, un politique ne peut avoir la même mise sur l'économie que dans la mesure où, y compris en premier chef, il a la mesure sur la fiscalité. Or, sur la fiscalité, aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, il y a une concurrence de pays à pays. Quand on voit aujourd'hui... La moindre réforme fiscale fait qu'effectivement, et même y compris quand je regarde la droite, qui justifie effectivement une évasion fiscale, je dis qu'effectivement,
alors, on n'a pas dans le bon sens. Effectivement, et puis on en arrive pratiquement à la politique européenne. Et on en arrive à la politique européenne. Qu'est-ce que Sarkozy aurait pu faire de mieux que ce que Hollande fait depuis un an en matière de politique européenne ?
Il a
réussi à décider quand même, Merkel, à ce que la BCE intervienne un tout petit peu.
Non, mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que le patron de la BCE a changé.
Absolument. Certes.
Voilà. Ça, la BCE est indépendante, sauf que le patron de la BCE est italien. Donc il a connu la crise italienne, il a connu la crise économique. Donc le pragmatisme italien aussi fait merveille à la BCE, elle intervient de manière beaucoup plus importante. Deuxièmement, sur le rapport France-Allemagne, vous avez vu les débuts du quinquennat de François Hollande, désastreux. Je veux dire, l'Allemagne est le partenaire naturel de la France et on doit travailler ensemble, main dans la main et avancer ensemble. Parce que je vous rappelle un chiffre, hein, le PIB de l'Europe c'est 50%, c'est la France et l'Allemagne. À partir de ce moment-là, vous avez compris que sans la France et l'Allemagne, l'Europe ne peut pas marcher. Et sur l'Europe, du volontarisme. Vous voyez sur la crise, enfin avec l'intervention au Mali. Nicolas Sarkozy intervient en Libye. Dans l'heure qui suit, les avions militaires anglais sont avec nous. L'OTAN se met derrière nous. Vote unanime. Il plie la Chine et la Russie quand même. Ce que personne n'a réussi à faire avec la Syrie. Pour intervenir au Mali, le volontarisme de Nicolas Sarkozy est absent, on le voit, maintenant avec François Hollande. Et la France se retrouve seule en première ligne. En gros, les Européens disent « Défendez-vous, défendez l'Europe contre les terroristes », mais ils ne passent pas la caisse. Là aussi, il y a une réflexion à faire. La France et l'Angleterre sont les deux seuls pays européens à avoir une capacité militaire d'intervention à l'extérieur. L'intervention au Mali, ce n'est pas pour la France. C'est pour le Mali, c'est pour la communauté internationale, et c'est pour la protéger
c'est
aussi
pour
l'Europe.
C'est pour l'uranium d'Areva.
Et moi, je suis d'accord avec certains parlementaires
qui passent par le Mali,
qui interviennent aussi sur Nizan. La France, pour conserver des capacités militaires, sert aussi les intérêts de notre pays, c'est évident, mais aussi quelque part les intérêts européens.
Dans les intérêts français, quand même, en matière d'uranium. D'ailleurs, je sais pas
c'est
si vous avez entendu.
Oui,
sauf que ça passe par le Mali. Et je sais pas si vous avez entendu, mais c'était ce matin, là, notamment sur France Info, où le Niger vient de faire savoir qu'il allait augmenter son prix de l'uranium, parce que quand même, etc., il trouvait qu'il ne gagnait pas suffisamment sur ce coup-là. Enfin bref, il y a le Niger qui se dit « Attends, si vous sécurisez les routes, je vais vous faire monter les prix,
moi. » Alors moi, je vais être un peu machiavélique, mais je trouve que l'intervention au Mali, le fait que la France soit un peu isolée, n'est peut-être pas une mauvaise chose par rapport aux pays, au Mali et aux pays voisins, qui vont dire finalement, autant qu'on ait l'essentiel de nos échanges sociaux, culturels, politiques avec la France, puisque c'est le seul pays qui nous a aidés.
Sauf que chaque fois, on se fait avoir, nous, les Français.
Du temps de Focard quand même, ça
niveau, on est en train de reconstituer un réseau qui pourrait s'appeler Afrique-France.
Reconstitution de ligue dissoute. Bon.
Je pense qu'il faut se garder de faire des comparaisons entre l'Irak, l'Afghanistan, le Libye et le Mali. Parce que bon, les conditions, effectivement, même y compris de l'opposition militaire, ne sont pas du tout les mêmes.
Alors, j'aurais bien voulu qu'on dise aussi deux mots de gens comme Bernard Tapie ou de gens comme Depardieu, le Depardieu russifié, et savoir ce que vous en pensez. Mais bon, de toute façon, définitivement, on a compris que vous n'y trouvez rien de bon à la politique du gouvernement de Hérault et puis de Hollande. Le consensus, c'est pas un concept qui vous sied, quoi. Encore que, on pourrait nuancer avec Robert Lecoux, qui éventuellement irait peut-être pas jusqu'à voter des trucs de Hollande, mais pourrait s'abstenir. Bon. On va revenir dans la bonne société qui nous accueille. On va se détendre, quelques notes de musique, et puis on va reprendre notre discussion là-dessus. Donc, 4 petites notes de musique.
la chronique du loup, alias Yves Le Bozec.
Eh bien oui, après des décennies d'une droite municipale radicalo-bourgeoise endormie sur les lauriers d'une viticulture bitéroise qui lui échappait, et de sa facette libéralo-giscardisée blanchisseuse de pieds noirs émigrés, pour avoir noirci des terres que des Arabes voulaient recouvrer, vint un certain Georges Frêche, des hautes terres toulousaines, tel un Trencavel vengeur. C'était en 1977. Depuis, la belle bourgeoisie endormie s'est réveillée tel un phénix de ses cendres et du bercail cher à Léo Mallet, à la surdouée affichée dans la presse nationale, la ville n'a cessé de transformer les Sim-Camille delmassiennes en tramway, fleurant bon la solidarité municipale. 35 ans que ça dure. Et fit des alternances politiques, des midis rouges devenus bleus ou blancs, des décentralisations deferriennes, faisant fi de tout, la gauche fréchienne, à ne pas confondre avec la gauche, a occupé le terrain mieux que des termites les boiseries d'un toit languedocien. Et la droite de se lamenter, de quasiment jeter l'éponge, ni les Dimeglio dauphinés, ni les cristoles bâtonnisés, ni les Dugrip facultisés, encore moins les Domergue chirurgisés, n'ont su lui damer le pion, au point de se demander « Y a-t-il une droite à Montpellier ?» Certes, quelques jeunes loups ont voulu faire leurs universités face à l'impérator, mal leur en prit. L'un se placardise dans quelques stations thermales en mal de reconnaissance romaine, l'autre se paternalise en pantouflant à l'ombre des oliviers de la nouvelle mairie. Pourtant, Montpellier est devenue au gré des ans la 8e ville de France. Elle lutte pour exister face à ses rivales de toujours, Toulouse et Marseille. Et les électeurs de droite, d'espérer un cador qui fasse la nique à la basse-cour. Mais les cavadas promis ont vite jeté l'éponge, jeune femme oblige, et chacun d'attendre la Jouanneau, la Pécresse ou autre égérie de la droite sarkozienne. Fi donc, personne ne voit rien venir, au point de se demander, la droite montpelliéraine, putain, quel numéro de téléphone ? Et pourtant, ce serait maintenant ou jamais. T'as décidément, le loup a vraiment mauvaise mentalité. Redonnons vite la parole à nos invités, Arnaud Julien et puis Robert Lecou, l'un pour l'UMP, vous l'avez compris, l'autre pour l'UDI. Bon, on est dans l'entre des belettes, il y a presque toute la droite. Presque toute, parce que le Front National a été boycotté, pour une fois, sur les antennes de Divergence. Ah oui, quand même pas les invités tous les 5 minutes. Hein. Et qui sont nos chers invités ? Robert Lecou de l'UDI, Arnaud Julien pour l'UMP. On va revenir au sérieux de la chose et voyons ce que ça donne quand on redescend dans les arènes du Clapas et qu'on parle de la bonne ville de Montpellier. Allez, une rubrique intitulée spécialement « Montpellier, la ville qui a banni la droite depuis bientôt 40 ans ». Alors, l'un comme l'autre, comment est-ce que vous analysez un tel bannissement au-delà de ce que fut Georges Frêche ?
Bah écoutez, ça fait maintenant depuis plus de 40 ans que la gauche est au pouvoir. Vous savez que ça veut dire que toute une génération d'employés municipaux, de personnes qui travaillent au sein de la mairie, ne sont pas issues de...
Bah, ils ont pu faire une carrière.
Oui, ils ont fait une carrière. Et donc, quand vous exercez le pouvoir, et surtout quand vous ne l'exercez plus pendant de nombreuses années, plus vous éloignez, plus c'est difficile après de conquérir. Deuxièmement, c'est une ville sociologiquement qui est, pour la droite, très défavorable. Une ville jeune, une ville d'étudiants, une ville de fonctionnaires. Et puis ensuite, vous avez vu la misère sociale. Parce qu'on parle de la droite, mais parlons un peu de la gauche aussi. Le spectacle déplorable que donne la gauche en ayant 50 leaders plus ou moins naturels pour la prochaine municipale. Nous, notre stratégie, c'est d'attendre. Aujourd'hui, il y a un leader, hein, il s'appelle Jacques Domergue, il est président du groupe d'opposition, il était candidat la dernière fois. Dans quelques mois, avant l'été, nous allons faire un sondage pour voir si...
C'est quand même pas lui qui va se représenter.
Pour savoir si la droite a une chance de gagner cette ville. Et puis à partir de ce moment-là, Jacques Demers prend ses décisions. S'il part,
c'est pas la peine de faire
soutiendra.
Un sondage. Non, mais dépensez pas les sous, on peut vous le dire.
Si...
Non, elle a aucune chance.
Écoutez, c'est les électeurs qui décident. Hein. Ce ne sont pas vous, ni les chroniqueurs. Ce sont les électeurs qui décident et qui sont souverains. Et vous serez surpris des résultats aux élections municipales.
Non, c'est toi qui nous le disais en 2014. Avant l'émission. De toute façon, c'est foutu.
là-dessus d'ici 15 ou 20 ans.
Ils sont respectueux, le Hof.
Ça sera,
ça
sera difficile. Ça sera ça sera difficile de gagner. Mais il faut se mettre dans une. Moi, ma stratégie, elle est simple. Derrière une tête de liste, il faut qu'il y ait des gens d'expérience et aussi une nouvelle génération qui partent à la conquête. Qui partent à la conquête de Montpellier, parce qu'il faut tout reconstruire sur Montpellier, effectivement. Ça, je suis d'accord sur votre constat. Et il faut que, à côté de personnes expérimentées, on ait une nouvelle génération aussi qui puisse s'implanter politiquement à Montpellier pour gagner en 2014 ou pour préparer l'avenir en 2020. Et c'est ce dont nous avons besoin à Montpellier. Alors, et c'est ce auquel je m'attellerai avec mes amis de l'UDI, justement, dans l'optique d'une liste unique à Montpellier. Bien sûr, il y a Anne Brissot à l'UDI, mais à l'UMP, nous avons d'autres personnalités, comme Alex Larue, qui est avocat. Anne Pellissier, qui est professeure à la Faculté de droit. Des gens qui sont connus dans leur milieu, mais qui, bien sûr, dans le microcosme, évidemment, où nous sommes enfermés, vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, ce sont des personnalités qui émergent au sein de nos formations politiques à l'UMP et qui auront demain tous les atouts pour pouvoir être en première ligne pour conquérir la ville de Montpellier. Et derrière un leader, ce sera Jacques Demergue ou quelqu'un d'autre, en tout cas, qui mènera la liste en 2014 pour essayer de gagner.
Anne Brissot, vous seriez derrière elle ?
Non, mais Anne Brissot, elle est à l'UDI, donc ce sera...
Une liste commune.
Les têtes de liste sont...
Un rassemblement républicain.
Non, mais de toute façon, c'est le rêve de la gauche. Je sais que c'est le rêve de la gauche d'avoir Anne Brissot tête de liste. Bon, nous, c'est dans une logique
et pas seulement différente. Et pas seulement parce qu'elle est jolie.
Et pas seulement qu'elle est jolie, mais bon, ça aide beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner, voilà, c'est tout. Donc après, les têtes de liste de plus de 40 000 habitants, c'est l'UMP national qui désigne les têtes de liste.
Et donc, on veut vous aider à perdre dans l'honneur avec Anne Brissot.
Ben écoutez, c'est votre choix. Mais je crois que vous l'avez invité, pas venu.
Elle n'a pas pu venir. Soyons objectifs. Voilà. Alors, je vais rassurer tout de suite Arnaud Julien. Je pense qu'effectivement, il y a des personnalités dont il a cité les noms et que je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas leur activité intellectuelle, etc.
Heureusement qu'il y a des jeunes.
Heureusement qu'il n'y a pas des gens intelligents qu'à gauche. Ce serait absolument catastrophique. Mais je pense que le véritable problème, c'est effectivement, il y a une dynamique qui a été initiée par Georges Frêche à un moment donné, et que cette dynamique n'existe plus avec le nom de Georges Frêche. Je pense que la gauche fait une erreur en se revendiquant d'un héritage. Je pense qu'il y a un héritage, mais pas d'héritier. Et donc, tout est à reconstruire. La seule différence entre la gauche et la droite, c'est qu'apparemment, il y aurait un leader naturel qui serait Jacques Demergue. On sait très bien ce que Rocard disait des leaders naturels. Et puis, le nombre de candidatures à gauche qui pourraient être effectivement retenues montre qu'il y a beaucoup plus de renouvellement possible à gauche, si je comprends bien, qu'à droite.
Mais c'est normal, parce que la gauche, aujourd'hui, elle a les collectivités. Elle a la région, le département, l'agglomération. On étouffe de la gauche dans la ville de Montpellier.
Un monopole de situation.
Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'élus. Effectivement, il y a beaucoup de choix qui leur sont proposés. Moi, ce que je vois... c'est aujourd'hui Montpellier n'a jamais été autant dégradé, aussi sale, aussi imposé, aussi peu sûr.
C'est la faute des Montpelliérains, c'est pas la faute de la mairie.
Structurant, je veux dire, finalement, les projets qui restent, c'est ceux que Georges Frêche portait avant sa disparition. Bon, maintenant, Montpellier a besoin d'une nouvelle aspiration. Et c'est vrai que la droite et le centre droit proposera une liste commune. En tout cas, on fera tout pour être ensemble, main dans la main, pour travailler et conquérir.
Je sens bien.
Et à partir de ce moment-là, je veux dire, on proposait une alternance aux Montpelliérains. Franchement, les Montpelliérains, ça fait 40 ans que la gauche est au pouvoir. Il n'y a jamais autant de chômeurs à Montpellier.
Ils viennent du Nord.
Il y a un an, c'était la faute de Sarkozy.
On va quand même pas mettre des miradors, quand même.
Ils viennent de la ville de Aubry et de Montroy.
On n'a jamais autant de précarité, jamais autant de problèmes sociaux dans notre ville, jamais aussi peu de grands développements économiques. L'aéroport, vous savez ce que donne la ville de Montpellier pour l'aéroport, c'est 250 000 euros. Enfin, c'est un pur scandale.
Que l'aéroport rentre dans l'agglomération.
Je crois qu'il ne faut pas l'aéroport rentre dans Montpellier. Pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est d'aider le développement économique pour créer les activités.
Quand je vois que Monsieur Rossignol, maire de la Grande Motte et conseiller régional de l'opposition, refuse le tramway quand même. Parce qu'il a peur d'avoir les hordes de la paillade.
Imaginez le tramway entre Montpellier centre-ville et la Grande Motte. Les types, ils vont mettre trois quarts d'heure, encore si ça marche bien, parce que la ligne 3 du tramway, il faut savoir que c'est un peu le bazar. Moi, je vois à Juvignac, une fois sur deux, le tramway de Juvignac, il n'arrive pas à Juvignac, il s'arrête avant. Et puis les problèmes de délinquance dans le tramway, il faut aussi que nos édiles de gauche s'y attellent.
C'est scandaleux de prendre le tramway et de se faire piquer, de se faire agresser. C'est scandaleux, quoi, Montpellier.
Ah, mais donc, si, il y a voilà. des gamins qui piquent le portefeuille, c'est parce qu'ils en ont besoin.
À Montpellier.
Parce qu'ils en ont besoin. Non, mais est-ce que vous ne pouvez pas dire l'un comme l'autre, quand même, à un moment, ça y est, bon, il est mort, ça fait plus de 2 ans qu'il est mort. Est-ce que vous ne pouvez pas dire, enfin, que ce que Fraîche a fait pour la ville a été sublime, grandiose?
Bien, alors écoutez, moi j'ai écouté avec délice tout ce qui vient d'être dit là. Hein. Le nom le plus cité, ça a été Anne Brisseau. Bon, bien, voilà une jeune femme qui, sur.
Je revendique et je proteste.
Elle était particulièrement
bien retournée ma veste.
Elle a eu des articles dans la presse locale, quotidienne, hebdomadaire, etc. Donc je me demande d'ailleurs si tous les journalistes qui ont la réputation d'être tous de gauche, etc., n'ont pas fait monter Anne Brisseau contre éventuellement Jacques Domergue ou Arnaud Julien. De l'UMP.
Écoutez, Montpellier mérite.
Allô, je dis tout.
Montpellier mérite 8e ville de France, autre chose que.
Les auditeurs ne peuvent pas voir, parce que. Mais Arnaud Julien a fait tip-top à Jean-Pierre Foubert. Il a dit ça, ouais,
alors, il y a quelqu'un que je respecte profondément, même si nous avons été adversaires politiquement.
Au bal des faux culs.
Bon, non, alors. Moi, je reviens. Montpellier, 8e ville de France, mérite autre chose. Je souhaite... Vous parliez du bilan de Georges Fraîche. Écoutez quand même, moi, Georges Fraîche, il n'est plus là, mais a-t-il réglé le problème environnemental avec les ordures ménagères? Non. Georges Fraîche a-t-il réglé...
C'est la faute des Montpelliérains.
Réglé...
C'est la faute des Montpelliérains.
Oui, 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 oui. Georges Fraîche a-t-il réglé le problème du contournement de Montpellier, qui est une grande métropole et qui aujourd'hui est réputée pour être le lieu de l'embouteillage. Georges Fraîche a-t-il réglé le problème de l'agglomération et du périmètre...
Il est mort avant.
De l'agglomération.
Ah non, Jean-Pierre, ne peux que réagir.
Tu peux être
iconoclaste. Notre pelette va réagir.
Mais sur des sujets fondamentaux.
Il peut pas tout faire, c'est toi, mec.
Non, mais attendez. Attendez. En 35 ans de mandat, je pense
déjà,
que ces sujets fondamentaux, le traitement des ordures ménagères, le contournement, l'accessibilité montpelliéraine en matière d'automobile et le problème de l'intercommunalité n'a pas été réglé. Ce sont des sujets fondamentaux. Il y a un vrai sujet que Georges Fraîche a bien porté, c'est celui de la communication, Montpellier l'a surdoué. Ça, c'est vrai qu'en matière de com', il a été très bon. Quelque part aujourd'hui, on a encore le résultat de cela. Ça veut dire qu'on est très attractif, mais attendez, c'est qu'on ne sait pas digérer et absorber cette attractivité là. Et on reçoit des gens aujourd'hui qu'on n'arrive pas à remettre sur le circuit de l'emploi. Là aussi, il y a un vrai problème au niveau de l'emploi. Alors, vous savez, le bilan de Georges Fraîche, peut-être que Robert Lecoux est un peu sévère là-dessus, mais il n'est pas aussi bon que ce que l'on veut faire croire. Les statuts, on les a érigés un peu vite. Je vois Jean-Pierre Joubert là-dessus.
Ouais, l'ancien chef de cabinet.
Il faut qu'il réponde. Je ne le ferai pas à cause de ma vie antérieure. Juste deux petits rappels historiques. Alors, à propos du contournement de Montpellier, je me souviens avoir rédigé, quand j'étais beaucoup plus jeune, un projet de vote à l'Assemblée régionale, à l'époque où Jacques Blanc était président et Georges Fraîche dans l'opposition, sur effectivement le fait que la région soutienne un contournement de Montpellier.
Attendez, le contournement, c'est l'agglomération montpelliéraine qui est avant tout concernée. C'est le département de l'Hérault qui est avant tout concerné.
Le fait de la A75 allait apporter 15 à 20 000 véhicules par jour. La A75, c'est Jacques Blanc, ça.
Non, un contournement nord de Montpellier où un conseiller régional de droite qui avait fait une liste dissidente qui s'appelait Jean-Pierre Grand soutenait et qui a été jeté au panier par Jacques Blanc à l'époque. Et sur l'agglomération de Montpellier, mais par exemple, comment Christian Jean-Jean, maire de Palavas, n'ait pas profité d'un cavalier parlementaire de Jacques Blanc pour sortir de l'agglo, ça serait intéressant. Que le blocage institutionnel, et c'est pas Georges Fraîche qui l'a fait, que le blocage institutionnel fait par Moguio, qui a sur sa commune l'aéroport de Montpellier, rentre dans l'agglomération, ce qui serait logique. Donc on voit très très bien que le problème,
Monsieur Joubert,
le problème,
paix à son âme. Hein. Aujourd'hui, on va pas là-dessus polémiquer longtemps. On peut toujours trouver de bonnes raisons pour les échecs, mais quand même, cet homme qui a été au pouvoir pendant 35 ans n'a pas su rassembler l'ensemble des élus du territoire pour faire une intercommunalité à la dimension. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Montpellier...
Mais attendez, le clivage est surtout gauche-droite. Je vois le soutien qu'a apporté Daniel Santonja, maire de Juvignac, au dernier régional à Georges Fraîche.
J'ai été président d'une communauté de communes et j'ai refusé dans un territoire où la commune centre représentait 75 à 80% de la population, absolument, d'avoir 50% des représentants au sein de l'Assemblée intercommunale. Or, Georges Frêche, là-dessus, n'a pas compris qu'en imposant les 50%, hein, il s'est donné un visage difficile pour les élus ruraux.
C'est pas Georges Frêche qui a imposé les 50%, c'est François Delmas.
Non. Ah, oui, mais attendez. Il avait bien le moyen.
Je suis désolé.
Il avait bien le moyen. Non, ça, c'était le district. Mais l'agglomération, c'est le résultat de Georges Frêche. Bon, mais ceci
mais
étant...
c'est plus de la moitié de la population.
Qu'on le veuille ou non, pendant 35 ans, il n'a pas réussi ces grands enjeux-là. Alors aujourd'hui, Montpellier a besoin d'un projet.
Alors
d'un
justement, projet, non mais justement, justement.
Vous avez cité Montpellier entre Marseille et Toulouse. Et Barcelone, je pense
que... Non, je n'ai pas dit Barcelone. Parce que
on peut aussi parler...
La Dakar, depuis Idrac, monsieur Idrac a carrément fait les choses. C'est Toulouse et Marseille qui prennent tout, Montpellier n'est plus rien. Faute de tenter d'exister et a tenté et réussi à l'époque de Georges Frêche. Alors, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'interroger.
Chance de Montpellier, c'est quoi? C'est la Méditerranée. Je pense qu'il faut avoir un projet méditerranéen avec Montpellier. Hein. C'est vrai que c'est un débouché portuaire qui est important pour Montpellier. Mm-hmm. Je pense qu'il faut un vrai projet. Et pour revenir à des considérations bassement politiciennes, par rapport à ce qu'est l'enjeu de la prochaine élection, moi je souhaite très sincèrement...
Il est expert en langue de bois, on va l'embaucher. Oui, la politique politicienne, c'est
très sincèrement
du
qu'il y ait...
Il faut que je pense à lui offrir le bouquin de Christian Delporte et l'histoire de la langue de bois.
La capacité d'intelligence pour trouver une liste d'union qui permette et à l'UDI et à l'UMP de proposer l'alternance de Montpellier.
Non, mais justement, soyons sérieux un petit peu là.
Non, mais c'est intéressant.
Tous les deux, vous avez... Quel serait le programme de la droite en 2014 pour Montpellier?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est pas le lieu d'en parler ici, si c'était le cas.
Et
puis ensuite,
il faut quand même apporter
les idées. On n'est pas là pour donner des idées à la majorité municipale. Hein. Donc vous verrez.
Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas aller plus loin?
Ah non, le programme de la droite est secret.
Non, mais Robert Lecoux disait, il faut qu'on ait une alliance construite entre l'UMP et l'UDI. Mais ça serait pas envisageable d'avoir une majorité à 100% couvrant tous les échiquiers politiques sur un même programme de développement de Montpellier? C'est forcément droite et gauche pour justifier de la démocratie.
Écoutez, on parle de Montpellier, c'est la 8e ville de France. Il y a un clivage quand même idéologique, il y a un clivage politique. Au-delà des personnalités qui sont sur la liste ou de la personnalité qui mènera cette liste-là, il y a quand même un clivage. Et en 2014, que ce soit l'UDI ou l'UMP, nous appellerons à voter
pour
dans les grandes villes.
Oh non, quand même pas.
Pour sanctionner le gouvernement en place. Il y aura un vote politique. Je veux dire, en 2008, il y a eu un vote politique. En 2014, il y aura aussi un vote politique. Voilà. Les Français qui vont mettre un carton rouge à François Hollande et à son gouvernement voteront pour les listes de droite et de centre-droite dans les grandes villes.
Vous êtes pourquoi les Français continuent leur confusion.
Ça veut dire que c'est pas la peine de faire un programme puisque les électeurs vont juger par rapport à une politique nationale et pas locale.
Dans les grandes villes, effectivement, le maire ou la liste, tout à l'heure on évoquait certains noms que vous connaissez pas ou que vous connaissez peut-être, mais c'est déterminant, mais c'est pas ça qui fait que l'élection. Hein. Il y a une part de l'électorat, moi je peux chiffrer entre 20 et 30% des grandes villes, qui a un vote purement politique.
Sur un nom.
Qui a un vote politique et ils veulent voter pour dire voilà, stop au gouvernement. En 2008, c'est arrivé, aux élections régionales, aux élections municipales, il y a des électeurs qui ont voulu sanctionner le gouvernement.
Moi je pense que c'est même beaucoup plus de 30%.
Et je pense qu'en 2014, il faut qu'on soit en capacité, et nous à l'UMP, la consigne était donnée que dans les villes de plus de 1000 habitants, on doit faire des listes.
Ah, donc on a compris.
Donc on a compris.
Le programme des municipales, c'est de ne pas en avoir, juste voter contre Hollande.
Eh ben écoutez, vous verrez.
Ce que vous reprochez à Hollande, en gros, d'avoir fait une campagne anti-Sarkozy, quoi.
Ah bah écoutez, il faut utiliser des bons arguments.
Hein. Quelque part. Ça, du Hollande de primaire.
Non, mais c'est le problème de la médiatisation et notamment de la médiatisation télévisuelle nationale.
À la télé, ils vont pas parler de Montpellier, ils vont parler
donc,
de droite
donc,
à la gauche.
Donc vous allez envoyer un second couteau au municipal parce que vous vous en foutez, c'est pas ça le problème. Quoi.
Oh, Georges Frêche a perdu en 1971 et gagné en 1977. Il peut y avoir un galop d'essai, comme on dit.
Vous savez, moi j'étais avec Jacques Demers en 2014. Et il avait traité justement Jacques Demers de second couteau et ça l'a pas empêché de gagner. Vous savez, il faut pas en politique, il y a pas de seconde. Il y a des gens qui travaillent.
Un second couteau, mais
des gens qui ont des convictions.
Ça te donne pas envie de faire un saut de 15 km?
Juvignac, c'est juste à l'autre côté de la Mousson.
Mais non, mais justement, 10 km, non. Un peu moins.
Même pas, je suis très bien où je suis. J'aiderai l'équipe qui sera à Montpellier.
Et Arnaud,
parce que si tu es élu, tu vas devenir vice-président jusqu'à présent. Il pourrait commencer à en faire. Est-ce que c'est pas plus sympa d'être maire de Juvignac que d'être le chef de l'opposition à Montpellier?
Ah oui, tu veux dire premier à Capoue plutôt que second à Rome. Mais c'est vrai que, Arnaud, si tu es élu maire de Juvignac, ça veut dire que tu vas être vice-président de l'Aglo.
Ben oui.
Écoutez, déjà, il faut gagner les élections municipales.
Oui, hein, mais c'est fait.
Non, c'est pas fait. Hein, il faut convaincre les électeurs.
Mais si, parce que tu viens de dire toi-même qu'à Montpellier, tu n'allais pas emmerder le monde. Donc, du coup, tu ne vas pas emmerder le monde. Bah, la gauche ne va pas t'emmerder à Juvignac.
Arnaud va avoir le soutien de Daniel Campagne. Arnaud va avoir le soutien de Daniel Santonja, qui, en général, quand elle soutient quelqu'un, il est élu, puisque au dernier régional, elle a soutenu Georges Frêche, qui a été élu brillamment.
C'est contre tout le monde. Mieux d'avoir le soutien du maire sortant. Bon, en l'occurrence, et après à l'agglomération, ce sont les élus d'agglomération qui décident les vice-présidents.
Tu seras vice-président de l'agglo, du coup, en 2015, tu seras élu au niveau régional. Donc,
un beau destin.
C'est le début d'une carrière. En fait, tu auras réussi là où Frédéric Tsitsonis, il est en train de se planter, quoi. Parce que vous étiez les deux vieux copains, quand même, il y a 20 ans.
On est toujours copains. Après, lui, il a fait un choix politique d'être plutôt avec les socialistes. Bon, c'est un choix. Moi, je crois qu'en politique, il faut être clair dans ses convictions.
Il n'est pas avec les socialistes, il est avec Marc Dufour.
Que des amis comme Robert Lecoux fassent le choix de l'UDI en restant dans le centre droit. Je crois que c'est important que nos amis
ramènent le centre à droite.
Ramènent, effectivement, on l'a vu aux différentes élections. Ce qui nous montre, c'est un centre droit. Voilà. La droite marche sur deux jambes. La droite et le centre droit. Et avec l'élection de Jean-François Copé, effectivement, la droite est le dernier, enfin l'UMP, le dernier rempart républicain face au Front National. Et que les électeurs.
Enfin l'UMP, la version Copé, quoi.
La version Copé, effectivement. C'est pour ça que moi j'ai soutenu Jean-François Copé dans cette élection interne, parce que cette ligne politique assure aux électeurs du sud de la France, effectivement, un vrai éclairage sur la droite républicaine. Et une digue, effectivement, au Front National. Et vous savez, la seule chance qu'a la gauche de peut-être gagner quelques villes en 2014, vous gagnez les régionales,
ou de les conserver,
c'est le Front National. Et il faut que les électeurs le comprennent.
Sur Jean-François Copé, je partage tout à fait l'analyse de Arnaud Julien. Je pense qu'en effet, on l'a vu, l'UMEP n'est pas une solution pour faire gagner la droite et le centre. Il faut donc.
Si ce n'est pas une solution, c'est que c'est un problème.
C'est pas une solution, c'est comme la sortie, c'est toujours une entrée à l'envers. Bon, je sais pas comment il faut le dire, mais enfin, je pense sincèrement que Jean-François Copé, qui veut une droite décomplexée, il a raison. Il faut qu'en effet, on arrive à se débarrasser de ce que François Mitterrand nous a mis dans les pattes à une époque, qui s'appelle le Front National, hein, d'une manière très subtile et très habile, parce que on s'est enclenché dans un schéma de refus par rapport aux extrémistes, ce que la gauche n'a pas voulu faire et n'a jamais fait.
Ça, c'est facile, c'est une analyse du XXe siècle, ça. Ouais. Je crois que François Mitterrand, en ayant, je vais vite, créé le Front National, en l'ayant fait monter, il a plus vidé le Parti communiste qu'emmerder véritablement la droite à l'époque. Cette histoire que le Front National.
Donc ça veut dire que les extrêmes se rejoignent plus facilement que, hein, franchement.
Bon, c'est clair, Guy Birenbaum, ça veut dire que Guy Birenbaum dans sa thèse avait largement montré
ce que la droite n'avait jamais réussi à faire en 40 ans.
Bon, donc moi je reviens sur le schéma et l'organisation nouvelle de la droite et du centre. C'est clair que Jean-François Copé offre une alternative claire, nette et précise. Et par contre, il faut qu'avec l'UDI, on soit capable aussi de rassembler ceux qui, par dépit, par anti-sarkozisme primaire, par anti-UMPisme primaire, ont été vers François Hollande. Et
donc, si t'es dépité, tu vote UDI. Si t'es dépité. Mais si t'es uniquement si t'es dépité, quoi.
Hein, l'UDI, c'est pas ce qu'on est en train d'imaginer, à savoir une démarche qui consiste simplement à faire de la politique politicienne. C'est aussi l'expression de véritables valeurs fondamentales. Je pense que, par exemple, l'UDI est la fusée porteuse de l'Europe. On a parlé de l'Europe, mais trop rapidement tout à l'heure.
Des valeurs fondamentales qui sont la fusée de l'Europe, si c'est pas de la langue de bois, ça, quand même, c'est grandiose.
Bah, écoutez, l'Europe, c'est quoi ? La France, c'est quoi sans l'Europe? L'Europe, c'est quoi sans la France?
Mais c'est quoi une fusée européenne?
Eh ben, il faut une fusée européenne.
Si, bah, je la connais, Ariane, mais...
Et l'UDI, là-dessus, n'a pas les mêmes problèmes que l'UMP avec des souverainistes qui sont anti-européens. Là-dessus, on est sur un schéma et sur une ligne de conduite et des convictions européennes qui sont très fortes et dont on a besoin. Il faut les affirmer.
Mais ouais, je suis étonné parce que Arnaud, c'est le gamin par rapport à Robert Lecoux, quoi. Et Arnaud Julien, encore une fois, là, pendant... Enfin, les auditeurs réécouteront l'émission, l'écouteront et la réécouteront en podcast. Il ne vous a pas fait de langue de bois. Ou pratiquement pas.
Et alors, où est la langue de bois quand on parle de l'Europe, là?
Non, mais Robert Lecoux, c'est l'enfant
qu'on serait de la fusée européenne.
Et moi, je me souviens des premières campagnes électorales auxquelles je me suis intéressé, et où, effectivement, notamment 65, où Le Canuet défendait l'idée de l'Europe.
Oui.
Et c'est le premier qu'il l'ait défendu avec des termes très contemporains. Je ne vais pas faire...
Là, pour les élections européennes, vous savez que la gauche encore va tripatouiller le mode de scrutin. Donc, ils vont faire...
Ça, c'est pas une spécialité de la gauche.
Un mode de scrutin national.
On était à bonne école avec Pasqua.
Et
la
différence, qui est complémentaire d'ailleurs, entre l'UMP... L'UMP est plutôt un parti pour une Europe des nations, hein. Et l'UDI, je crois, sauf erreur de ma part, Robert est plutôt pour une Europe fédérale, donc une intégration beaucoup plus importante des pays. Et je crois que ce sont deux visions qui peuvent aussi se défendre. Moi, c'est vrai que je suis... Il y a quelques années, j'étais plus pour une Europe fédérale, et puis maintenant, en avançant, je suis plus pour une Europe des nations, parce que moi qui adore voyager, c'est vrai que c'est dommageable d'aller dans tous les pays d'Europe
et
de voir quasiment la même chose.
Quel Front National?
Non, parce que je pense que c'est pas antinomique.
Non, mais l'Europe fédérale sera celle qui pourra harmoniser quand même les fiscalités, qui pourra harmoniser le code du travail, parce que si on n'harmonise pas aujourd'hui, l'Europe ne sera pas réussie.
Y compris l'Europe des finances.
Vive les États-Unis d'Europe.
Donc il faut avoir le courage de dire oui, le mot fédéralisme, il ne doit pas faire peur. Quoi. Aujourd'hui, on veut faire peur aux Français.
Mais juste une question. Est-ce que ça veut dire que, comment vous êtes pour l'Europe des régions? Ce qui voudrait dire qu'il faudrait forcément une fusion des régions à l'échelle des Länder allemands, qui signifierait...
En France, c'est stupide, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut revoir la
Ça veut dire qu'il faut fusionner entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, ce que proposait éventuellement Georges Frêche dans son livre La France ligotée il y a plus de 20 ans.
Là-dessus.
Attention, je me coupe. Vos micros sont coupés.
A oublié de parler du département.
On arrive là au terme de l'émission. Là, messieurs, ça fait 90 minutes qu'on discute, qu'on converse, qu'on provoscope en tout genre. Bon, enfin, en tout cas, il y a une chose qui est claire. La droite bouge encore. Vous en avez écouté les bonnes paroles, presque l'évangile depuis bientôt 90 minutes. Monsieur le centriste, monsieur de la droite, nous vous remercions d'avoir joué le jeu provoscopien une fois de plus. Vous savez qu'ici vous êtes chez vous et que vous revenez dès qu'on vous le dira. La semaine prochaine, à gauche toute, la CGT aura la parole. Non seulement vous aurez droit à une belle interview du nouveau secrétaire général Thierry Paon, qui a été menée par notre belette, mais ce sera aussi la provoscopie de Serge Ragazaki, le leader héraulté de la Confédération syndicale, car vous n'êtes pas sans le savoir, il est un des membres de notre conseil éditorial. Bref, une émission à ne pas rater, le tout sur le 93.9. tous les lundis de 12h30 à 14h. Remerciements à la technique tip-top de Bruno Bertrand qui a remplacé au pied levé notre ami et néanmoins camarade Gilles Gouget. Mais là, c'était Bruno Bertrand à la technique. À lundi prochain. En attendant, n'oubliez jamais que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Merci, à lundi prochain. Il viendra, la joie de puissance.